VOA Afrique, les infos à Washington.
Dilly Dico avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 14h à Washington, 19h en temps universel. Bonsoir. En République démocratique du Congo, un quatrième candidat de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre a annoncé ce dimanche à Kinshasa son désistement en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. « J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, d'allier nos forces à la candidature de Moïse Katumbi », a déclaré dans un message lu devant la presse le député Déli Sesanga, leader du parti Envol, Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC. Au démarrage de la campagne officielle, le 19 novembre, 26 personnalités se sont déclarées candidats à la présidentielle. Élection à un seul tour, organisée en même temps que les législatives, les provinciales et les municipales. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est également candidat à un second mandat. En Zambie, les secours dépêchés pour venir en aide à une trentaine de mineurs illégaux portés disparus depuis 2 jours dans une coulée de boue ne parviennent pas à les localiser, selon le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vendredi qu'au moins 30 mineurs étaient pris au piège d'un torrent de boue provoqué par des pluies torrentielles dans une mine de cuivre à ciel ouvert située dans la région de Tchingola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka. Dimanche, la vice-présidente zambienne Mutale Nalumango, évoquant une catastrophe, a indiqué dans un communiqué qu'en dépit d'opérations de secours jour et nuit, l'équipe de recherche et d'assistance n'a à ce jour localisé aucun des mineurs pris au piège dont le sort demeure inconnu. Au moins 20 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dans des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord de la Tanzanie, a déclaré dimanche la commissaire du district affecté, assurant que le bilan pourrait s'alourdir. De fortes pluies ont été touché depuis samedi la ville de Katesh, dans le nord du pays, à environ 300 km au nord de la capitale Dodoma, a déclaré la commissaire du district de Hanang, Janet Mayanga, précisant que jusqu'à présent, 20 personnes ont été tuées et 70 autres blessées. Ce chiffre va probablement augmenter, a-t-elle ajouté.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le groupe État islamique a revendiqué un attentat à la bombe perpétré dimanche lors d'une messe catholique dans le sud des Philippines qui a fait au moins 4 morts et une 50aine de blessés selon les autorités. Les soldats du califat ont fait détonner un engin explosif sur un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Marawi, a affirmé le groupe djihadiste dans un communiqué publié sur ses chaînes Telegram. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a promis dimanche que la Cour intensifierait ses efforts pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre dans le conflit qui oppose depuis bientôt 2 mois Israël et le Hamas à l'issue d'une visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Karim Khan a souligné que sa visite n'est pas de nature investigatrice, mais a dit avoir pu parler à des victimes des deux côtés du conflit. Après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts et au cours de laquelle ont été capturés 240 otages, Israël a lancé une vaste opération sur la bande de Gaza pour tenter de venir à bout du Hamas. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Dilly Dico à la présentation. Je vous retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Nous poursuivons notre série sur la dimension religieuse du conflit israélo-palestinien en parlant de l'émergence de l'extrémisme religieux. Eric Mandrakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous abordons donc l'extrémisme religieux et son impact croissant sur ce conflit. Plusieurs observateurs notent l'implication des groupes radicaux dans ce conflit séculaire et le risque imminent de le voir basculer vers un affrontement religieux majeur. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation délicate. Nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodj au Manhattanville College à New York. Le professeur Mbodj donne des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'époque médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodj portaient sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Professeur Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes également en ligne avec Frida Darmani, journaliste à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, bonsoir.
Bonsoir.
Le père Grégor Pridjotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous. Il est rattaché au laboratoire Droit et Société Religieuse, chargé de cours à la Faculté des Sciences Sociales, d'Économie et de Droit de l'Institut Catholique de Paris. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
En quoi les idéologies extrémistes religieuses influencent-elles les dynamiques du conflit israélo-palestinien, en particulier du point de vue des sociétés religieuses et des structures de pouvoir au sein de ces communautés?
Pour répondre à ces questions, il faut bien revoir l'historique de l'apparition justement de ces mouvements marqués par l'extrémisme religieux, qui sont les protagonistes finalement de ce conflit. D'abord en parlant donc du Hamas, qui est un mouvement de résistance islamique, nous savons qu'il est basé sur le nationalisme palestinien et sur la conception extrémiste de l'islam, qui donc est principalement actif dans la bande de Gaza et administre seul depuis le juin 2007 ce territoire. Et il prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien avec Jérusalem pour capitale sur tout le territoire d'Israël actuel. L'autre protagoniste ou les protagonistes qui influencent aussi la politique actuelle, c'est bien évidemment le sionisme qui, à la base, était un mouvement national d'une partie du peuple juif au XIXe siècle, surtout en diaspora en Europe de l'Est. Et c'était un mouvement qui était tout à fait dans la mouvance des mouvements nationaux de l'identification nationale de plusieurs peuples. Par exemple, on peut citer le peuple hongrois, le peuple polonais, le peuple romain, les tchèques, etc. Donc au début, le sionisme à l'époque se place dans ce mouvement commun comme un mouvement identitaire mais aussi politique, donc qui n'est pas trop marqué par la question religieuse. Même au XIXe siècle, il y a un certain processus de sécularisation de la population juive ashkénaze qui s'adapte à la modernité et qui est dans les courants de temps. Et bien sûr, face à l'antisémitisme qui émerge en Europe de l'Est, ce mouvement devient très populaire dans la population juive. Voilà. Donc, en revanche, ce qui caractérise certains mouvements extrémistes actuels, c'est le sionisme religieux, qui est une réalité assez récente tout de même. Et donc, ce sionisme religieux essaie de concilier ou même de baser sur les principes religieux, sur les fondements de la Torah, la politique actuelle. On peut citer un exemple, un des partis religieux actuels, le parti national religieux Mafdal, est un parti politique israélien d'extrême droite qui était fondé au mois d'août 2023, donc c'est très récent. Et il est assez influent dans le gouvernement israélien de l'extrême droite actuelle et représente la politique sioniste religieuse. Donc dans les deux cas, celui de l'extrémisme religieux de Hamas ou celui des partis nationalistes religieux de l'extrême droite israélienne, il s'agit des véritables idéologies qui sont ennemies, viscéralement opposées dans leur vision politique et religieuse, et par conséquent, ils sont parfaitement inconciliables.
Des groupes radicaux musulmans ont été impliqués dans des actes de violence contre Israël, contribuant ainsi aux tensions et aux conflits. Comment l'implication de ces groupes s'inscrit-elle dans le contexte historique du conflit et comment cela s'inscrit dans le contexte plus large ?
La dimension religieuse, évidemment, comme nous l'avons développée tout au long de cette émission, et a toujours été là, mais elle n'a jamais été activée de façon centrale, certainement peut-être depuis les croisades. Les croisades avaient un élément religieux tout à fait clair et net, et à partir de ce moment-là, on peut définir de tout ce qui s'était passé autour comme ayant été déterminé par effectivement des idéologies de type religieuse, etc. Mais depuis lors, c'est plutôt le côté construction d'un territoire national, construction d'une identité nationale, et où fondamentalement, évidemment, les Palestiniens étaient dans la très grosse majorité musulmans. Donc, il y a un peu une sorte de duplicata de leur identité. Ils sont Palestiniens en quête d'un territoire, d'un État, etc., etc. Mais ils sont aussi des musulmans opprimés. Donc, c'est ce discours qui fait entrer l'islam dans ce cadre-là. Et les groupes qui utilisent l'islam sont souvent liés, et comme l'a dit donc mon ami journaliste, liés souvent d'ailleurs à des puissances extérieures telles que l'Iran. Donc il y a une volonté de certains pays et de certains mouvements de créer une union sacrée des musulmans partout où les musulmans se trouvent, contre l'Occident d'une manière générale, et dans ce cas particulier contre Israël. Et à ce moment-là, c'est là où on utilise le volet religieux. Mais les Palestiniens ne sont pas fondamentalement pas des gens animés simplement par la foi religieuse. La foi religieuse, elle est mise en marche pour créer la solidarité. Une solidarité qui, en dehors de la Palestine, interpelle les pays arabes, parce que les Palestiniens sont arabes. Et de l'autre côté aussi, interpelle les populations musulmanes, puisque en grosse majorité, les Palestiniens sont des musulmans. Mais donc c'est plus une sorte d'appel à l'aide, à la solidarité, que de réellement supporter sur ses épaules une cause musulmane. Maintenant, de façon très claire et nette, le fait que la gestion de l'esplanade des deux mosquées soit confiée dans la politique israélienne, disons dans une perspective religieuse, évidemment va créer une réponse religieuse. Donc, la montée d'un islamisme qui se fondera ou qui va se fonder sur la question de l'esplanade des deux mosquées va certainement arriver, si ce n'est pas déjà arrivé, en contre-attaque, en réaction contre l'utilisation de facteurs religieux pour mobiliser l'opinion publique israélienne, en particulier autour des moments électoraux, pour créer une sorte d'union sacrée, religieuse, pour fondamentalement supporter ce que la vision de la droite israélienne, parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart des Israéliens, s'ils avaient le choix aujourd'hui, cette esplanade des deux mosquées n'est pas importante dans leur vie. Et donc, de là à mourir pour ça, certainement pas. La majorité des Israéliens, certainement, se seraient prononcés contre. Mais on force, d'une certaine façon, l'opinion publique israélienne, au nom d'un nationalisme religieux, à créer un problème qui, fondamentalement, n'est pas religieux, mais qui va avoir une réponse religieuse, parce qu'à une revendication religieuse, va s'opposer une autre revendication religieuse. Et à ce moment-là, maintenant, on pourra représenter le conflit, non pas comme un État Israël en conflit avec des citoyens d'un autre État qu'ils occupent, mais plutôt comme un conflit religieux, islam contre judaïsme, en interpellant évidemment les chrétiens de quel côté allez-vous vous mettre, et en créant évidemment, en se retrouvant derrière ce concept de guerre des civilisations, et où donc judéo-chrétienne contre islamique, et de ce point de vue-là, Israël a tout à gagner en manipulant un tout petit peu les éléments dans cette direction. Mais ce n'est pas évident qu'il va toujours y arriver, car de l'autre côté, il y a fondamentalement et de façon très très nette une donnée géographique, une donnée géopolitique, la ville de Jérusalem, la Palestine, et ces faits-là ne sont pas réduits et ne peuvent pas être réduits simplement à un conflit islamo-juif.
Les textes coraniques sont interprétés de manière diverse par différentes communautés musulmanes, ce qui peut nécessairement entraîner des divergences d'opinion sur les revendications territoriales. Professeur Mbodj, comment ces interprétations variées ont-elles contribué à, est-ce qu'elles ont contribué à façonner les divergences d'opinion dans le contexte du conflit au fil de l'histoire?
Ce qui est étonnant, c'est que quelquefois même, par exemple, ce conflit fondamental que tout le monde voit entre Shia et Sunni semble être irrévocable, et d'une manière générale, il y aura bien quelque part, quelques jours, une sorte de résolution finale. Mais dans l'histoire, il faut que les gens se souviennent que, par exemple, une dynastie chiite, les Fatimides, ont gouverné les terres d'islam dans leur majorité, donc à partir de l'Égypte. Et ça n'a pas provoqué ce qu'on peut appeler une catastrophe entre ces deux religions. Donc, de façon fondamentale, les gens savent très bien qu'il y a des différences d'interprétation, qu'il y a des différences même sur l'interprétation de l'histoire de l'islam, en particulier donc l'accès au califat, etc., pour même remonter au temps dès après la disparition du prophète Mohammed. Donc, de ce point de vue-là, il y a bien des relents, il y a bien des causes de guerre ou de conflit, mais que la communauté musulmane a géré d'une façon assez, disons, subtile. Maintenant, il y a certainement des zones de conflit. Ces zones de conflit, c'est en Irak. Ces zones de conflit, c'est en Afghanistan. Ces zones de conflit, c'est au Liban, où donc des fractions de musulmanes inspirées d'une part par le sunnisme et d'autre part par le chiisme vont s'opposer. Il y a aussi des mouvements à l'intérieur même de l'islam qui sont des mouvements fondamentalistes qui veulent retourner au premier siècle de l'islam, etc., etc. Mais tout ça, en réalité, ne participe vraiment pas dans le contexte de cette guerre donc entre la Palestine et Israël. D'une manière générale, le schisme est très, très, très peu représenté et très, très peu influent sur ce qui se passe actuellement dans cette zone. On prête beaucoup de pouvoir et d'influence au gouvernement iranien auprès du Hamas, et ça reste à démontrer. Ce sont plus des supputations. à partir d'éléments effectivement faibles, mais qui sont fondamentalement faibles, comme au début du conflit où la presse occidentale voulait nous faire croire qu'en réalité il y avait, que c'était un coup monté par l'Iran, qui avait tout organisé, qui avait tout manipulé, qui avait tout financé et qui avait donné l'ordre à Hamas d'exécuter. Maintenant on se rend compte que ça n'a jamais existé, que en réalité même les groupes chiites les plus proches de ce théâtre d'opération comme le Hezbollah ne veulent pas entrer dans ce conflit. Donc, d'une manière générale, cette sorte de relation qui aurait créé une sorte de front musulman entre chiites et sunnites pour attaquer Israël, même c'est une fiction, ça n'existe pas, et c'est particulièrement parce que et fondamentalement, et on le dit depuis le début dans cette émission, peut-être que le facteur religieux est représenté dans la presse occidentale d'une manière générale. On veut toujours en revenir à qu'est-ce qui motive les musulmans à faire ceci ou cela, mais en réalité, ce facteur est assez faible pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera toujours faible. Et en particulier, mon collègue a rappelé les provocations, même devenues sérielles, par rapport à des groupes militants juifs qui veulent créer une conflagration, qui veulent créer une sorte de conflit et où définitivement Israël va asseoir sa suprématie et sa victoire et on va retourner peut-être à une situation où on peut expulser les Arabes, les musulmans, on peut les déloger de leurs lieux saints, on peut réoccuper Jérusalem, etc. Mais pour l'instant, c'est au compte-goutte. Et je ne pense pas que le pouvoir israélien soit capable de le faire pour l'instant.
Frida, l'interprétation des textes coraniques.
Je rejoins tout à fait le professeur. Je rajouterais aussi une donne qui est très très importante, c'est que au sujet de la communauté musulmane, c'est vrai qu'elle est traversée par deux courants essentiels qui sont grosso modo les chiites et les sunnites, mais tous les deux estiment qu'il y a une umma, une sorte de communauté musulmane qui serait comme une sorte d'union sacrée. Et c'est là, c'est vrai que de temps en temps, certains y aspirent. Ils ont beaucoup aspiré certains mouvements djihadistes, extrémistes ou fondamentalistes en général qui se sont beaucoup exprimés dans la dernière décennie. Aujourd'hui, ils sont un peu écartés. Non seulement un peu écartés, mais non plus, ils ont été beaucoup considérés comme terroristes. Le DHL, Al-Qaïda, etc. font tous un peu leur lit dans cette lignée-là. Aujourd'hui, le conflit risque de devenir beaucoup plus grand. Donc ce qui fait que ce ne sont pas plus les divergences internes à l'islam qui peuvent avoir une importance. Aujourd'hui, les gens veulent sauver leur peau, veulent vivre. On voit, quand on voit les images de Gaza ou quand on voit certains documentaires, c'est terrible. On peut imaginer ce que ça signifie d'être pendant un mois bombardé, etc. Ça n'enlève rien à l'horreur et à la tragédie, au crime commis par les militants ou les hommes du Hamas, plutôt. Mais aujourd'hui, la région est très faible et il faut se demander, à part vouloir un État pour eux, Israël, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que je ne peux pas oublier qu'il y a une chose, c'est que la terre promise, selon les Israéliens, elle va du Nil à l'Euphrate. Donc il y a de quoi faire encore. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on met la main, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire des Palestiniens? Ils sont pratiquement 8 millions, sans compter ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine, parce que pour beaucoup, vivent en exil ou vivent ailleurs, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces populations, les populations déplacées? Et surtout, ce qui va façonner aujourd'hui l'histoire, c'est les positions et le droit international, s'il est appliqué ou pas appliqué. Aujourd'hui, plus que les religions, c'est exactement la position que va prendre l'ONU. Et tout le monde attendait une position juste, non pas une position subjective ou partiale, etc. Tout ça, on ne s'en rend plus compte parce qu'on est habitué à vivre maintenant dans ce système. Mais tout ça a plus d'importance aujourd'hui que des vieux textes coraniques et leur interprétation, à moins que ça ne devienne à ce moment que les choses aillent tellement mal que les pays arabes se réunissent tous et ça devient à ce moment-là un djihad. Et là, on peut répondre de rien. Mais je pense que ce que je raconte là, c'est de la science-fiction et qu'on saura raison garder et s'arrêter bien avant d'arriver devant l'irréparable. Déjà, il est clair que le conflit actuel va façonner le monde de manière radicalement différentes.
Père Grégoire, les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens conçoivent ces textes de Lévitique ou autre, en tant que donc les expressions des événements qui ont été liés à un contexte politique ou religieux, surtout politique, des invasions, des déportations, etc., dans un contexte historique particulier. Donc cela relève de passé. Il n'y a pas de lecture fondamentaliste chez les chrétiens de ces passages-là. Ça appartient à l'histoire désormais, liée à l'histoire propre de peuple juif qui devait survivre dans les conditions très difficiles et compliquées. Comme nous le savons. Chez les juifs aussi, il y a une différence d'interprétation de ces textes. La plupart, quand même, aussi classent dans le passé historique. Donc, il n'y a pas d'appel à la violence. La preuve que le grand rabbin de Jérusalem, il appelait à la justice du Très-Haut, mais en vœu de la paix. Et son message était porté sur le désir de la paix et la prière. Et le jeûne que tous les juifs ont commencé pour Israël, sont tournés vers la paix. Donc il n'y a pas d'appel à la violence. En ce qui concerne les courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Dans la plupart de cas, les textes, parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a 6300 versets, où à peu près 300 en citent au combat ou à la violence, et il y a que 5 textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi. Mais encore une fois, les interprétations dans la majorité des courants musulmans sont de genre spirituel. Par exemple, on cite un combat spirituel, c'est nos péchés ou nos faiblesses, nous avons à éliminer, et c'est nos péchés qui sont nos ennemis. Mais hélas, il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets et donc qui veulent ou désirent les appliquer à la lettre. C'est par exemple la lecture de courants talibans, wahhabites, etc., qui font cette lecture. Donc c'est vraiment une attitude très combative qui ne recherche pas du tout la paix. On fait de la vie vraiment une guerre. C'est cette minorité, mais qui cause beaucoup de souffrance maintenant dans le monde, en Proche-Orient et partout où ces courants sont présents.
Dans quelle mesure les enseignements religieux des deux côtés peuvent-ils être un facteur de division et comment peuvent-ils être utilisés comme des catalyseurs pour la réconciliation et la compréhension mutuelle?
Je crois que les enseignements religieux des deux côtés, donc si on prend le monde palestinien et puis le monde israélien, de toute façon, les deux religions se définissent comme les religions qui recherchent la paix. Souvenons que Islam veut dire la religion de paix et Jérusalem, Yerushalayim, c'est la cité de la paix. Mais nous savons que malheureusement, à Jérusalem, la paix était toujours très instable depuis toujours. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, très lointaine ou très récente, voilà, on voit qu'il y a toujours des difficultés dans la recherche de cette paix désirée tant par tous. Je crois que c'est surtout l'enseignement qui se base sur la recherche de la paix qui pourrait peut-être, en quelque sorte, catalyser les efforts communs pour la rechercher. Mais dans les conflits très frais, il faut qu'il y ait de temps qui puisse passer parce que les blessures sont trop douloureuses pour l'instant pour que les uns et les autres puissent se tourner vers cette solution. Donc c'est la question vraiment très, très, très difficile. Concernant les divergences d'enseignement religieux des deux côtés, je viens de l'expliquer que malheureusement les textes sacrés, on peut les interpréter et les courants politiques n'hésitent pas à les interpréter comment cela les arrange, donc pour pouvoir justifier leurs propres crimes quelquefois. Par conséquent, c'est très compliqué de trouver un point de vue commun sur le problème.
Merci d'avoir suivi ce dialogue des religions alors que nous clôturons cette discussion sur l'extrémisme religieux et le conflit israélo-palestinien. Il est évident que la situation demeure complexe et délicate. La compréhension, le dialogue, des efforts conséquents pour promouvoir la paix restent essentiels. Gardons à l'esprit l'importance d'œuvrer ensemble pour un avenir où la coexistence pacifique entre toutes les communautés devient une réalité. Merci encore de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à nos invités, Mohamed Mbodj, Frida Darmani, Père Grégor Prichotko, Eric Manilakis a été avec vous au micro, Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. À la prochaine.